Remarquez bien que c'est exactement le même tableau que le précédent, hein. Sauf qu'il est rangé de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et puis maintenant, il y a des têtes de chapitre. Et il y a un ordonnancement différent, mais c'est exactement les mêmes éléments qu'il y a dedans. Hein. Alors, les petites corrections, je voudrais vous donner quelques petites corrections. Première ligne, 7 expériences fondamentales. Deuxième, 7 dimensions de l'homme. Troisième, 7 interrogations de l'intelligence face, non pas au mal, mais face au réel. Face au réel. Face au réel. D'accord ? Bon, ensuite, vous avez à la quatrième case, 7 ébranlements profonds. Alors, entre parenthèses, il y a marqué limite du psychose de l'être. C'est pas du tout psychose de l'être. C'est limite. Il n'y a pas de limite au psychose de l'être. Les limites du pose de l'être. Du pose. Ça, c'est un pi. Un pi. Ça, c'est un oméga. C'est un sigma. Pose. Ça veut dire le comment. L'être n'a pas de psychose. Combien de temps il faudra que je vous explique ça? L'être n'a pas de psychose. Alors quand je pense que c'est quelqu'un qui est formé métaphysiquement, bon, que j'ai formé pendant 9 ans, et qui m'a écrit psychose à la place de pause, bon, de l'être, le psychose de l'être. Non, mais je ne sais pas si vous voyez. L'aberration. Bon. Bon. Le pose, vous voyez, le psychose de l'être. L'être, c'est tout ce qui relève, qui est en dehors du psychose. Puisque je vous ai expliqué que le point de vue de l'être, se distingue radicalement du point de vue de l'âme, du point de vue de la vie. Je vous l'ai déjà dit. L'intelligence. Comment, pour la première fois de sa vie, a balbutié, à dire « Ah, pas, pas », quand elle comprend la différence qu'il y a entre l'être et la vie. En grec, oui, en grec, la vie, ça se dit « psyché ». C'est de là que vient psychologie. Et l'être, l'être, c'est tout à fait autre chose. Ah non, Ousia, c'est la substance. Hein? Ah non, Ousia, c'est la substance. Tohot, l'être. Le ti-el. L'être. Bon. Bon. Donc vous voyez que c'est radicalement différent le point de vue de le fait d'exister. Et le fait de vivre, ça, quelqu'un qui n'a pas compris ça, ça veut dire que c'est un sous-développé. Ça, c'est pas naturel. Quelqu'un qui ne comprend pas la différence entre la famille, il n'a jamais commencé à être intelligent. Jamais. Il a une c'est comme quelqu'un qui a des yeux qui n'a jamais rien vu. Il n'a pas vu. Il n'a vu aucune couleur, aucune forme de sa vue. On a mis un bandeau. Ça n'est pas normal. Un gosse de 4 ans et demi comprend ce que c'est que la différence entre le psyché et le psychel. Donc vous voyez bien que le point de vue de la vie, l'âme, psyché c'est l'âme, hein. L'âme. Le point de vue de l'âme n'a rien à voir. Alors quand on dit le psychose de l'être, c'est quelqu'un qui n'a rien pigé. Donc, j'espère que vous aviez tous corrigé de vous-même. Oui.
La parole de balbutiement, je ne sais pas si c'était l'être ou la vie.
Non, c'est l'intelligence qui balbutie la première fois où elle commence à s'exprimer. Elle commence à comprendre, elle commence à... Non. L'intelligence est capable de saisir la vérité. L'intelligence est capable de trouver la vérité. La première vérité qui est de l'ordre métaphysique, qui est de l'ordre de l'intelligence. La première vérité qui ouvre la porte à toutes les autres vérités. On parle ici de la vérité au sens absolu, infrangible, irrenversable. Donc, la vérité, pas des vérités. Sinon, ce sont des opinions, ce sont des idées. Les idées ne sont jamais la vérité. Jamais. Mais ton intelligence et ce qui en toi est capable de toucher la vérité. Eh bien, ton intelligence n'a jamais fonctionné si tu ne sais pas faire la différence entre l'être et la vie. Autrement dit, entre le jugement d'existence et l'induction de l'âme. Bon, mais enfin, donc, comme je vous ai déjà fait ça plusieurs fois, regardez, faites tout simplement, je vous le rappelle, c'est très simple, c'est capital. C'est fondamental, capital, c'est tout démarre là-dessus. C'est pas compliqué, tout. Si vous ne voyez pas ça, vous n'aurez jamais, de toute votre vie, aucun discernement, jamais. Et vous ne rentrerez jamais dans la vie contemplative. Jamais. Et vous tomberez dans les miasmes bourbes des philosophies analytiques, le psychose, de l'étang, pas de l'être. Le psychose de l'étang. C'est pas l'étang avec un G, hein. Alors, c'est pour comprendre ça. Mais de toute façon, on va petit à petit essayer de comprendre. J'espère que petit à petit, du reste, vous allez petit à petit comprendre cela. Donc, l'être et la vie. C'est tout à fait autre chose, le fait de toucher en moi le fait que j'existe et le fait que j'ai en moi la vie. J'ai une âme, j'ai une source de vie. Et puis, j'existe. Pour quelqu'un qui n'a pas fait cette distinction et qui ne voit pas clairement cela par des exercices de l'intelligence. L'intelligence, c'est comme le corps. Ça se travaille. La contemplation, ça ne vient pas comme ça. Ah, je suis contemplatif. Ah, ouais. C'est contemplatif, tu rigoles. Il faut, l'intelligence implique un travail. Et vous savez très bien ce qu'on dit par exemple dans le christianisme. Puisque nous, on est chrétiens, donc pas de problème. Ce qu'on dit dans le christianisme, c'est que le péché capital de la paresse, vous avez 7 péchés capitaux, et parmi les 7 péchés capitaux, vous avez la paresse. Eh bien, la paresse touche le travail de l'intelligence. Ne pas se former au niveau contemplatif, c'est ça le péché capital de la paresse. Un péché capital, c'est un péché qui devient une source de toutes les corruptions de la personne. Eh bien, si tu es paresseux, c'est-à-dire si tu ne te formes pas à la vie contemplative, toutes les corruptions de la personne humaine pénétreront en toi sans exception. Eh bien, quelqu'un qui aime, c'est pas... Quelqu'un qui est capable de faire la différence entre la vie et l'être, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence entre la méditation, s'il est religieux.
Enfin, mais c'est une paysanne qui sert.
Eh bien, une paysanne est parfaitement capable de comprendre la différence entre
ces. Pourquoi vous dites alors qu'il faut s'instruire, cette personne ne s'est pas instruite?
Mais bien sûr que si, il ne s'agit pas de faire de la philosophie universitaire. Il s'agit d'avoir le bon sens qui permet de faire que je suis capable de discerner le réel.
Oui, mais le bon sens, ce n'est pas de s'instruire,
ce n'est pas l'instruction. Attention, ne confondons pas tout, s'il vous plaît. Il y a une personne qui est de la campagne, du gros bon sens, qui n'a pas fait d'études universitaires. Elle est capable de comprendre la différence qu'il y a entre le réel et les impressions qu'elle a. Elle fait la différence entre ce qui relève de la réalité, du réel, oui, parce qu'elle a du bon sens, justement. Et puis, les impressions qu'elle peut avoir, elle ne confond pas les deux. Donc elle fait la différence entre l'être et la vie. Et voilà, très bien. Elle ne projette pas ce qu'elle porte sur le réel. C'est le réel. Elle tient compte du réel.
Oui, mais alors il ne faut pas dire que les gens qui ne s'instruisent pas.
Mais je ne dis pas ça, je dis qu'ils ne se forment pas. Eh bien, il n'y a pas que la formation universitaire. La formation universitaire, justement, vous déforme de ce point de vue-là. Donc tous ceux qui rentrent en université de philosophie à la Sorbonne se déforment tous intellectuellement ici. Donc vous allez dans le sens de mon moulin. Tout à fait. Mais ici, c'est une formation à la vie contemplative. On ne se forme pas à la vie contemplative par le point de vue universitaire. Parce que le point de vue universitaire me forme mon cerveau. Ne forme pas du tout mon habitus de sagesse. Il faut chercher la vérité. Quelqu'un qui s'en fiche complètement, qui ne regarde pas du tout ça, il ne regarde que ses opinions, ce qu'il porte en lui, c'est tout, il n'y a que ça qui compte. Mais c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, c'est un gros paresseux. Bon, alors, aujourd'hui, ce n'est pas ce sujet-là qu'on va traiter, donc vous voyez, c'est juste pour faire des corrections. De typographie. Ah oui, alors tout à fait en bas à droite, il y a marqué Sophia et Philia, ce qu'on va regarder justement aujourd'hui. Sophia et Philia, vous le voyez? Eh bien, Philia, ça veut dire amitié. Et Sophia, ça veut dire sagesse. Alors, c'est pour ça qu'il y a une sagesse, c'est forcément contemplative. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué amitié et contemplation. Eh bien, il y a marqué en dessous entre exis et diathésis. Ce sont des mots qui sont grecs. Alors, faites attention parce que entre exis et diathésis, marquez que c'est la philia, donc l'amour d'amitié, se situe. Alors vous mettez entre exis et entre parenthèses, vous mettez en dessous pour la philia ou pour l'amitié. L'amitié se situe entre exis et diathésis. Vous inquiétez pas, on va expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Mais la Sophia n'est pas évidemment entre exis et diathésis. Bon. Puisque la Sophia est exis. Bon, vous inquiétez pas, on va voir ça. Vous ne pouvez pas comprendre comme ça, évidemment. Parce que vous ne connaissez pas le grec. Et puis, vous savez. Bon, on va voir petit à petit. Donc voilà, moi, les trois premières corrections que je vois, comme ça, en un premier coup d'œil. Mais sinon, tout le reste, on remercie celui qui a fait ce travail énorme. C'est un travail considérable, ça. Bon, je vous rappelle de quoi il s'agit. Vous avez tout à fait au sommet les sept dimensions de l'homme. L'homme a sept dimensions. Nous avons regardé la dernière fois, face à ces sept dimensions de l'homme, nous avons regardé la dernière fois comment les idéologies modernes qui structurent toute la pédagogie, toute l'information, toute l'éducation nationale, etc., etc., et tous les médias, depuis à peu près 50 ans, comment ces sept idéologies modernes sont là pour trucider l'homme dans ces sept dimensions. C'est un homicide, au point de vue, justement, de la formation. Et donc, on avait vu ça la dernière fois, justement, pour redémarrer et refaire une philosophie, donc, réaliste de l'homme naturel, tel qu'il est. En fonction d'une sagesse, à partir justement d'une vérité d'expérience, au lieu que ce soit à partir d'une vérité, à partir d'une idée. C'est la très grande différence. Les gens qui confondent l'être et la vie, eh bien forcément, ils ramènent l'être à la vie. Et donc leur idée est première, parce que l'idée, c'est dans votre vie intérieure, votre idée. Et c'est là que vient l'idéologie. Et comme j'ai confondu l'être et la vie, l'idée que j'ai va être l'absolu. L'être, c'est infrangible. Et donc, je ne le remettrai jamais en question. C'est pour ça que ce sera une idéologie, une idéologie. On n'a pas le droit de la remettre en question. C'est un dogme. L'évolutionnisme, c'est un dogme. Tout prouve que c'est faux, mais ça ne fait rien. C'est une idée, et j'en fais une métaphysique, puisque je confonds l'être et la vie. L'existentialisme, pareil. Voyez bien. Et donc je vais construire des structures d'initiation à cette vérité, soi-disant, qui est partie de mon idée. Et c'est pour ça que toutes les structures de formation par la voie initiatique sont tous une confusion radicale de l'être et de la vie. Donc elles sont tous en dehors de la vérité. Mais toutes les structures initiatiques sont des structures de formation par la voie de la voie vitale, c'est-à-dire une ascension vitale progressive.
C'est le fait que c'est une initiation qui est comme ça. C'est une initiation chrétienne aussi, non ?
Oui, mais attention, l'initiation chrétienne, c'est une initiation des sacrements. Hein, oui. C'est une initiation chrétienne, c'est une initiation par les sacrements. Donc les sacrements, c'est-à-dire tu accèdes à l'Eucharistie à condition d'être passé par le baptême. Donc c'est pas une initiation idéologique.
Et là, vous parlez d'une
initiation... Là, je parle d'un système de formation. Je vais me former intérieurement, de manière progressive dans une voie initiatique, c'est-à-dire je vais respecter des étapes. Tandis que du point de vue de l'être, si tu vois que le point de vue de l'être est là, et que tu le distingues du point de vue de la vie, tout est progressif dans le point de vue de la vie. Mais si tu formes ta personne en accent à partir de l'idée, donc à partir d'ici, tu seras obligé de passer d'arriver à ta personne progressivement. Tandis que si tu vois que l'être est quelque chose de tout à fait autonome, tu peux rentrer tout de suite dans le point de vue de l'être et atteindre immédiatement ta personne. Et être déjà une personne humaine en acte.
Et parallèlement continuer à évoluer du point de vue de l'être.
Tu comprends bien que tu vois bien qu'à chaque fois tu fais un jugement d'existence. Tu peux immédiatement faire un acte d'adoration, tu atteins immédiatement ta fin. Immédiatement. Là, tu vois, tu comprends tout de suite, parce que tu es chrétien. Pour quelqu'un qui ne l'est pas, c'est plus long. C'est plus long. Il faut d'abord qu'il fasse l'expérience d'une formation dans cette voie-là, c'est pas parce que tu es intelligent que du coup, tu ne dois plus avoir de vie intérieure. C'est justement ce qu'on va regarder. C'est qu'il y a différentes voies d'intériorité. Et on ne doit pas les foutre en l'air. On doit les respecter. C'est pas... Bon, voyez bien.
Qu'est-ce que vous avez dit dans l'évolutionnisme ?
Non, je parlais des idéologies. De parler de l'évolutionnisme comme d'une doctrine, donc d'une idéologie, si j'en fais une idéologie, c'est le signe que j'ai confondu le point de vue de l'être avec le point de vue de la vie. Le point de vue de l'être est quelque chose que je ne peux pas diviser, que je ne peux pas diviner, je ne peux pas corrompre, je ne peux pas renverser, je ne peux pas faire commencer, je ne peux pas faire finir non plus. Et donc si j'ai confondu les deux, je regarde le point de vue de la vie, et je parle d'évolutionnisme, et j'en fais un absolu. Je dis que l'évolutionnisme est une idée que je ne peux pas dépasser. J'en fais une idéologie. Voilà ce que je disais. Le propre des idéologies, c'est de confondre, c'est d'établir une idée à l'état de système. Et je ne peux plus sortir de l'idée. Mais je développe l'idée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout de mon idée. C'est comme un père jésuite qui a rencontré, histoire totalement authentique, qui a rencontré un père dominicain. Et puis, il parlait d'un... Et ce Père Jésus disait aux Dominicains, oui, celui, je ne me rappelle plus comment s'appelait ce Père qui était mort. C'est vraiment extraordinaire ce Père qui est mort, il était Jésus, bien sûr. C'est Jésus qui était extraordinaire. Il a toujours, vraiment, du point de vue de l'obéissance, il a été obéissant toute sa vie. Ah, tu reprends, dit ce Père Dominicain. Oui, oui, il est toujours resté fidèle à son idée. Ah bon. Ouais. C'est pas mal, ça. Bon, alors... Non, le jésuite. Bon. Alors, donc, on va essayer de voir maintenant, si vous voulez... Ah oui, alors on va essayer de voir. Oui, ce qui me poussait à vous faire ça, c'était ce que disait le pape aux jeunes à Częstochowa. Il vous a expliqué une chose. Donc, on va commencer par la première intériorité. Comme ça, on verra mieux, par contraste... On va regarder une intériorité, donc, de type contemplatif d'abord. C'est pas parce que mon... Vous comprenez bien que si je saisis le point de vue du fait que je suis, j'existe, je suis, j'existe. Vous comprenez bien que si je saisis ça,
Par contraste, avec ce point de vue, c'est en moi toute une intériorité vitale qui fait que je ressens, j'éprouve, j'ai des pensées, j'ai des certitudes, j'ai des impressions, j'ai des angoisses, j'ai une certaine foi même, hein, une certaine croyance, tout ça. Mais je regarde toute la différence qu'il y a entre tout ce que je porte en moi vitalement, intérieurement, ça c'est la vie, et puis ce fait que j'existe, je suis. Je regarde tout d'un coup l'écho à l'intérieur de moi de ce fait que je réalise que j'existe. Le pape a dit aux jeunes, rappelez-vous, il a dit, vous ne pourrez pas passer le seuil du troisième millénaire en ayant encore la foi chrétienne si vous ne commencez pas par comprendre le je suis. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Le pape, faut pas l'oublier, a été formé, et quelqu'un qui a toujours regardé à partir de l'expérience pendant des dizaines et des dizaines d'années, ce que c'était que la personne humaine. Et donc il veut sauver la personne. Il sait très bien que les idéologies modernes ont pour but, à partir de Feuerbach, et surtout à partir de Hegel, enfin, cette espèce de rejet de Hegel, ont pour but de détruire la personne. Vous savez bien. Et donc il veut sauver la personne. Et il dit, le Saint-Père dit, vous les jeunes, vous ne pourrez pas avoir la foi s'il n'y a plus de personne humaine en vous. Si la personne humaine a été, si vous vous laissez, homicidée. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Comprenez d'abord le « je suis ». Donc c'est net. Il faut d'abord faire un jugement d'existence. Comment est-ce qu'on devient contemplatif, ça veut dire tout ça. Vous ne deviendrez jamais contemplatif par la voie d'intériorité. Jamais. Il faut comprendre ça. Quelqu'un qui dit, je suis contemplatif, regardez. Voilà, poubelle, oui. C'est contemplatif comme mes fesses. On ne peut pas être contemplatif par la voie d'intériorité. Ceci est capital. On est contemplatif par la vérité. Et la vérité n'est pas en nous. Quand même, on existe vraiment. Nous vivons vraiment. Il y a en nous une parcelle de vérité. Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas vraiment une parcelle de vérité, c'est une parcelle de vie et de lumière. Ce n'est pas la vérité. La preuve, c'est que je peux me corrompre au niveau intérieur. Je peux me corrompre. Parce que la vérité est incorruptible. Donc, n'essayons pas d'atteindre la vérité par le point de vue de l'intériorité. L'intériorité va m'aider à devenir de plus en plus contemplatif. Elle va m'aider. Mais ce n'est pas en rentrant dans l'intériorité que je vais devenir contemplatif. Il faut que je sorte de l'intériorité et que je rentre dans la réalité. Et la réalité, vous voyez, je l'atteins par le corps. Et quand mon corps touche un autre être que moi, un autre et une autre personne que moi, ou quand je me touche moi-même, de manière très très lucide, par les sens externes, je vois que j'existe. Oui, je fais complètement abstraction du fait que je vis, que j'ai une âme, une intériorité. J'existe, je suis, j'existe. Tout commence par ça. Et celui qui ne fait pas cet exercice tous les jours, dans le monde d'aujourd'hui, il est foutu. Bon, donc je répète tout simplement comme un perroquet ce que dit le pape. Bon, donc, c'est pas parce que c'est le pape, mais c'est pas parce que moi j'aime bien le pape aussi. Bon, d'accord. Bon, alors donc, vous voyez, je suis. Donc, j'existe. Première, voilà. Il faudrait mettre, je ne l'ai pas mis sur le tableau à cette colonne, mais vous voyez, la première voie d'intériorité pour la vie contemplative, il y aurait ici quatre structures d'intériorité. La structure d'intériorité du cœur qui aime, la structure d'intériorité artistique, la structure de la vitalité intérieure de l'âme, et la structure contemplative. C'est cette quatrième que je veux regarder avec vous et qui n'est pas sur le tableau. Pas de chance pour vous. Mais on va le faire ici. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le tableau. Bon. Autant qu'on essaie de chercher ensemble. Donc, si je voyais que je me trompe, reprenez-moi. C'est pas? Parce qu'on cherche ensemble. Hein. Quand vous êtes contemplatif, moi, il me semble que... Donc, la première, la voie d'entrée dans la vie contemplative, c'est quand je suis lucide sur le fait que j'existe. C'est la première colonne. C'est la voie de la colonne. Vous savez que la première colonne, c'est que j'ai un corps. Et je suis bien dans ma peau. Et je suis partie de l'univers. Je suis face au réel. Et c'est par le corps. C'est pas du corps. Je suis une partie de l'univers. Je me touche. Je vois que j'existe. L'univers aussi existe. Et le petit univers qui est à côté de moi ici existe. C'est extraordinaire, ça. Et tous les autres univers qui sont là aussi. Merveilleux, ils existent. Pourquoi? Parce que je peux les toucher, je peux les voir, les entendre. C'est par le corps. Hein. Je fais un jugement d'existence. Je rentre là. Deuxième voie d'intériorité. On ne va pas en rester là en disant « Ah, j'existe. Ah, t'es bien avancé. » C'est pas une voie d'intériorité, ça. C'est pas parce que tu fais un jugement d'existence que d'un seul coup, t'es contemplatif. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas rentrer dans la vie contemplative. Donc, qu'est-ce que tu vas? Tu vas prolonger cela. Je suis jugement d'existence. Pour, est-ce que tout le monde voit comment on fait un jugement d'existence? Bon, je recommence. Tu te touches. Et tu dis, non, tu dis pas c'est moi. Non, c'est moi, c'est pas un jugement d'existence. Mais tu dis, j'existe. Je suis. C'est un jugement d'existence. Ah, là, s'il y a quelqu'un, je regarde. Ah, elle existe. Et si tu veux faire exactement, vraiment voir la différence, si vraiment vérifier si tu as vraiment fait un jugement d'existence, maintenant ferme les yeux, touche-toi et regarde qu'à l'intérieur, il y a de la vie là-dedans. Tu vis. Tu as une unité extraordinaire. Mais là, tu touches quelque chose d'autre. Tu touches l'âme. Tu touches pas l'être. Ça va? Mais dès que tu touches, ah, j'existe. Tu touches autre chose. J'espère que tu vois la différence entre le réel et ce que tu perçois du réel. Si tu regardes ce que tu perçois du réel, tu touches le point de vue de la vie. Parce que ce que tu perçois, c'est la vie. La perception, c'est la vie. Tandis que le fait que tu existes, c'est pas vivant. Tu existes, puis c'est tout. Si on te flingue, quand tu peux encore toucher le corps, il existe encore. Tout le monde comprend ça. Tous ceux qui ont assisté à la mort de quelqu'un comprennent que quand il touche un corps, il existe. Mais il n'y a pas la vie. Donc tout le monde le comprend. Quiconque a assisté à la mort de quelqu'un comprend la différence entre l'être et la vie. Tu touches, tu vois que tu existes. Jugement d'existence. Ça va? Tu peux faire ce jugement d'existence sur toi, sur quelqu'un qui est à côté de toi, sur l'univers. Tout ce qui existe.
Mais mon père disait, on ne pouvait pas faire un jugement d'existence sur un objet créé de main d'homme.
Attends. Tu peux faire un jugement d'existence sur tout ce qui existe.
Attends, j'ai un bord. Ne me dis pas qu'il n'existe pas. Je peux faire un jugement d'existence. Il existe ou pas? Ça existe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe?
Oui, bien sûr.
Bon. Tu peux dire qu'il y a quelque chose qui existe. Ah, je le touche, je suis sûr. Ben, si tu me dis le contraire, je vais te dire que tu fossilises complètement. Il y a quelque chose qui existe. Fossilisé. Seulement, je dis, est-ce que c'est le banc qui existe?
Non, parce que vous dites qu'on ne pouvait pas faire de jugement d'existence sur la porte ou sur le banc.
Oui, parce que la porte, c'est quelque chose qui a été créé par la pensée d'un artiste en disant « je vais faire un banc, comme ça on pourra s'asseoir dessus ». Donc c'est un génie qui a dit « pour me reposer, je vais fabriquer un banc ».
Donc,
la forme du banc, elle vient d'où? La forme du banc, elle vient de la pensée de quelqu'un. Donc fondamentalement, c'est de l'ordre de la vie. Donc la forme du banc, elle est radicalement, elle vient de la vie, de la pensée vitale de quelqu'un. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même de la matière. La matière ne vient pas de la pensée vitale de quelqu'un.
Et cette matière-là, elle existe. Cette forme-là, la forme ne vient pas de l'être.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un banc, mais qu'on ne peut pas dire le banc existe?
Si je peux dire, je touche l'être à partir de ce toucher.
Il y a de l'être.
Voilà,
c'est l'être. On ne peut pas dire que c'est le banc. Alors, qui existe.
Maintenant, tu dis, c'est l'être de quoi? Ah, ça, c'est autre chose. C'est pas l'être du banc.
Ça fait pas partie,
c'est un autre problème.
Ça fait pas partie du champ d'existence.
Non, mais ne perds pas ton temps avec l'existence du vent, si tu veux bien. Essaye de voir l'existence de la présence. Commence par ce qui est facile. Commence par ce qui est facile avant de lancer dans ce qui est difficile. En réalité, lorsque tu seras habitué à faire des jugements d'existence, tu vas de plus en plus t'apercevoir que tu peux faire un jugement d'existence, mais que ce n'est pas l'être du vent que tu touches, mais c'est l'être du monde végétal. Parce que c'est du toi. Et le monde végétal, c'est ça, c'est indéniable. Mais, bon, laisse le monde végétal. Prends-toi. Prends l'univers. Prends l'autre. C'est déjà pas si mal. Bon, si tu veux faire la différence, commencer à devenir un tout petit peu compliqué, prends un chien. Ou une vache. Mais touche là, hein. Touche la vache. Et c'est pas si simple que ça. Bon. Mais vous comprenez bien que là, on n'avance pas avec cette question. C'est pour ça que je préfère que ce soit à partir de la personne. Donc, d'accord, c'est la question de la personne. Si après vous voulez appréhender le monde animal, c'est un autre problème. Laissez la spiritualité, cette spiritualité-là et cette préoccupation-là à Brisbane. Nous, on n'a pas de temps à perdre. Donc, voyez bien, ici, vous avez, premièrement, jugement d'existence. Je suis. La deuxième étape, voyez, deuxième colonne, c'est la colonne du travail. Donc il ne suffit pas d'atteindre le point de vue du « je suis » pour rentrer dans la vie contemplative. C'est pour ça que je suggère que la question du travail, le travail principal, vous savez ce que c'est que le travail, c'est à partir de quelque chose, faire quelque chose d'autre. Or, le point de vue de l'être apparaît par une activité artistique. Par quelle activité artistique le point de vue de l'être apparaît-il? Vous le savez bien, l'être apparaît à partir d'un acte de création. Oui. Et en fait, c'est le travail créateur du créateur, de l'être premier, que nous appelons, nous, Dieu. Et donc, la deuxième étape à partir de ce jugement d'existence qui fait que vous voyez, vous touchez votre « je suis », la deuxième étape à partir de là, c'est d'atteindre que ce « je suis » est le fruit du travail du Créateur. À partir de rien, il a fait que vous existez. Il fait que vous existez. C'est son travail. Et donc, vous atteignez le « je suis » de l'être premier. L'être premier, vous le savez bien, c'est ce que nous appelons Dieu. Vous voyez bien. Vous voyez que je reprends exactement ce que disait Saint-Père Chiscobar. Votre « je suis », le « je suis ». Hein, tous ceux que vous rappelez, tous ceux qui étaient chez Stokofa, votre je suis, le je suis de Dieu. Il faut que, une fois que vous avez saisi le fait que vous existez, que vous puissiez toucher, que vous rentriez, que vous soyez conscient du fait que vous existez, puis dans une deuxième étape, vous pouvez dès lors reconnaître ce que c'est que l'être, et donc voir et toucher le point de vue de l'être premier, celui qui n'est qu'être. C'est le Créateur. Vous voyez que entre là et là, il y a un sacré saut. Hein. Aristote dit qu'il faut 40 ans pour faire ce saut. 40 ans de travail. Donc, ne dites pas que vous le faites en 30 secondes. Mais, il faut savoir que notre intelligence est capable, à partir du jugement d'existence, d'atteindre dans un toucher réel, aussi réel que le fait que je touche, du point de vue que j'existe, le toucher de l'être premier. D'une manière réelle, c'est ce qu'on appelle les démonstrations de l'existence de l'être premier créateur. Bon, je suis tout à fait d'accord que c'est pas si commode que ça, mais à partir du moment où cette démonstration a été faite, vous pouvez, si vous avez confiance, vous pouvez faire directement ce jugement d'existence sans faire vous-même la démonstration. Touchez-vous et voyez que si vous existez, ce n'est pas vous qui vous êtes fabriqué l'être. Vous pouvez le constater tout de suite. Et ça vient forcément d'une source. Et qui produit l'être ? Ce n'est pas votre père et votre mère. Si vous dites que c'est votre père et votre mère, c'est que vous confondez la vie et l'être. Votre père et votre mère vous ont donné la vie. Vous avez un corps, c'est d'accord. Le corps, mais pas l'être. L'existence vient du Créateur. Et donc, vous touchez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est l'être premier. Et donc, vous touchez tout de suite. Vous savez que la démonstration est faite et que ça fait à peu près 8 siècles qu'on essaie de mettre bazooka sur cette démonstration pour dire que ça va pas. Et personne n'a réussi. Donc vous savez que ça fait quand même 8 siècles de gens qui essaient de dire qu'il y a, et ça n'existe pas, et surtout aujourd'hui, et ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés de reconnaître que cette démonstration est infrangible. Il faut savoir, j'ai pas besoin d'avoir la foi pour savoir qu'il existe un créateur. N'a rien à voir avec la religion. Rien. Alors, attention à ne pas dire bêtises. En disant, moi j'ai la foi. Ah, donc Dieu existe. Et non, ça n'a rien à voir avec la foi. Rien. C'est du bon sens. Donc, vous pouvez toucher le point de vue de l'être premier. La troisième étape de cette vie contemplative, vous le voyez bien, c'est le point de vue de l'esprit. C'est la colonne c'est la colonne de la contemplation, précisément. Eh bien, la première rentrée dans le point de vue contemplatif spirituel, vous voyez que le point de vue spirituel, c'est de la vie. C'est une vie spirituelle. Votre vie spirituelle va s'introduire ici, dans la relation qu'il y a entre votre « je suis » et le « je suis » de Dieu. C'est votre esprit va rentrer dans cette relation. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Je vais adorer. C'est-à-dire, je vais, par ma vie spirituelle, mon intelligence, rentrer dans ce fait qu'entre mon « je suis » et le « je suis » de Dieu, il y a une relation réelle, il y a une relation spirituelle, il y a une relation physique. Physique au sens latin, c'est-à-dire une relation réelle. Et je rentre dans cette relation qu'il y a en ce moment. Je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu. Je prends conscience que Dieu est en train de me créer. Suspendu en ce moment, l'être premier fait que j'existe. Vous voyez, vous ne pouvez pas le dire de la vie. Votre âme n'est pas suspendue à l'acte créateur de Dieu. Parce que si votre âme était suspendue à l'acte créateur de Dieu, vous ne pourriez pas être libre. Parce que quand on est suspendu à un acte créateur, on ne peut pas faire autrement que faire d'être ce qu'on est. J'existe. Je ne peux pas corrompre mon être. J'existe. Je ne peux pas diminuer mon être. Je ne peux pas diviser mon être. Tandis que ma vie, je peux la corrompre, je peux la diminuer, je peux la couper, je peux me tuer, je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre. Je fais de ma vie ce que je veux. Donc ça prouve que ça dépend de moi, ça ne dépend pas de Dieu. Tandis que l'être dépend de Dieu. Vous voyez la différence? Et quand vous voyez quelqu'un qui est à côté de vous, vous savez qu'il y a quelque chose en lui qui est dans la main du Créateur. Donc, on ne peut pas y toucher. Vous voyez ça? Et pour vous, c'est la même chose. Là, en ce moment, je suis suspendu. C'est le point de vue le plus incorruptible de vous-même, c'est l'être. Le fait que c'est dans la main du Créateur. Et là, vous touchez le lieu où vous êtes en lien direct avec le Créateur. Je suis suspendu à le Créateur de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est votre vie, votre intelligence qui rentre là-dedans. Alors elle s'ouvre et elle comprend ça. Et tout de suite, vous vous sentez léger, léger. Votre corps sent léger. Peut-être pas votre âme, mais votre corps, oui. Vous voyez, ça c'est l'adoration. Vous voyez, c'est le point de vue spirituel. Rentre dans cette voie d'intériorité par l'adoration. Ça marche ? Troisième, quatrième étape, la vie. Le point de vue de l'âme, le point de vue de la vitalité intérieure de l'âme, c'est que vous voyez bien qu'il y a une chose absolument extraordinaire, c'est que pour ce qui nous concerne, nous, notre « je suis » n'a rien à voir avec notre vie. Ce n'est pas séparé, mais c'est complètement distinct. On leur fait ici une distinction, et c'est pas séparé, mais c'est très distinct. Nous sommes tout à fait la même personne. Il n'y a pas deux aspects en nous. C'est une seule personne. Mais c'est distinct. Tandis qu'en Dieu, l'être et la vie, c'est la même chose. C'est ça la chose extraordinaire de l'être premier. C'est que l'être premier n'existe pas, et puis c'est tout. Voilà, il existe, mais il n'y a pas de vie en lui. Oui, oui, il vit. Mais justement, sa vie consiste à exister. Tandis que nous, notre vie ne consiste pas à exister. Je reprends.
On peut dire quand même que la vie et l'être sont en nous, dans la personne humaine, une même réalité.
Oui, dans la même réalité, il y a la vie et puis il y a le point de vue de l'être. Distinct. Tandis que pour Dieu, le fait d'exister, quand il fait un jugement d'existence et quand il fait un acte intérieur, c'est la même chose.
Alors ma question est, par rapport au Christ qui a une personne divine,
on y vient.
Uniquement, et pour son qui a une nature humaine.
On y vient. Qu'est-ce que ça donne ? On y vient, on y vient. Ne brûlons pas les étapes. Alors vous savez, on y vient. Je vais brûler les étapes, tire l'arigot. Alors donc vous avez quatrième. Donc là, il se trouve que il ne suffit pas de toucher le point de vue du fait que Dieu existe, l'être de Dieu, à partir de votre être. Vous voyez bien que ce n'est pas par la voie intérieure que vous pouvez faire cela. Vous n'adorerez jamais. Vous voyez que quelqu'un... Pourquoi est-ce que le point de vue religieux a disparu du monde moderne ? Parce que les idéologies ont bousillé ce point de vue de l'intelligence capable de s'investir dans le point de vue de l'être. Et on s'est réfugié dans le point de vue idéologique. Et donc, il est impossible d'arriver à l'adoration. Vous le comprenez, là, tout de suite, n'est-ce pas ? J'espère. J'espère que vous le comprenez. C'est pour ça que le point de vue religieux a disparu. C'est pas que les gens sont plus mauvais, c'est que les gens ne peuvent plus le faire. L'intelligence a été homicidée par les idéologies modernes. Ça, c'est une remarque universelle, n'est-ce pas ? Ça, de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, tous ceux qui réfléchissent. Quelle que soit leur... confession, n'est-ce pas ? Eh bien, le quatrième aspect qui est ici, vous voyez, c'est la colonne donc de la vie. Qu'est-ce qui va se passer si je reste dans cette dimension contemplative ? Je suis suspendu à l'acte. Eh bien, je peux aller plus loin que l'acte d'adoration. Vous voyez, tout ce que je vous fais, c'est de la philosophie, je vous le rappelle. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, avec la grâce. Avec la religion. J'espère que vous comprenez. La vie chrétienne, c'est encore autre chose que ce que je vous dis là. Je pourrais très bien ne pas être un moine, et je pourrais très bien être un croyant, et je pourrais très bien vous dire ça. D'ailleurs, j'essaie de vous dire ce que disaient les gens qui, justement, n'étaient pas croyants. Donc, vous voyez, je suis honnête. Et je suis d'accord. Voyez bien que je ne vous enseigne pas la voie chrétienne ici. Mais la voie chrétienne respecte ça. Et comme avec le pape, elle dit, et avec Jésus, elle dit, rentrez là-dedans. La vie chrétienne respecte ça. Et en plus, elle amplifie ça. Et en plus, elle dépasse ça.
ça, et en plus, elle élève ça et glorifie cela surnaturellement. Mais essayons d'abord de voir ce que c'est que le point de vue naturel. Si le point de vue naturel est fossilisé, je ne peux plus rien surnaturaliser. Parce que je ne peux pas bénir un monstre. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'atteins l'être premier par l'acte d'adoration. Je dépense au moment de la créateur de Dieu. C'est extraordinaire. Et je rentre dans cette relation de dépendance totale entre mon existence, je suis, et le je suis de Dieu. Je fais pénétrer le je suis, qui est le mien, dans le je suis de Dieu. Ça, j'ai répété presque mot à mot une parole du Saint-Père, Chestokovan. Je fais rentrer mon je suis dans le je suis de Dieu. C'est très fort qu'il ait dit ça. Moi, j'aurais jamais pensé de l'exprimer comme ça. Mais vous l'avez entendu, hein? Vous voyez? Eh bien, est-ce que le fait de toucher par mon je suis le je suis de Dieu, je peux pas aller plus loin? Oui, je peux aller plus loin. Je peux aller beaucoup plus loin, vous voyez? Il y a encore 4 colonnes. Vous voyez? Donc je vais prendre mon pied. Hein. Alors, et ici, je vais aller très vite, parce que sinon, vous allez dire... Bon, je vais aller très vite. Bon, parce que, et puis à vous, après, hein, allez-y, foncez. Passez du temps à faire ça. Passez-y du temps. Un quart d'heure par jour. C'est un acte de santé naturelle, ça. Si vous ne faites pas... C'est le point de vue sanitaire numéro un. C'est le SAMU moderne, c'est ça. Transfusion sanguine. Hop ! Vous voyez ? C'est d'aller à l'adoration et de dépasser l'adoration dans une vie contemplative. Dans la contemplation de quoi ? Ah oui, mais oui, mais je peux atteindre l'être premier. Mais l'être premier, l'être, il vit. Il n'est pas là, j'existe. Dans la stabilité de l'être, il y a une dynamique substantielle en Dieu. Tandis que notre dynamique à nous n'est pas substantielle. C'est une dynamique vitale. C'est une dynamique de psychose. C'est une dynamique psychologique au grand sens. Tandis qu'en Dieu, il n'y a pas de dynamique psychologique. C'est une dynamique substantielle. Mais c'est une vraie dynamique vitale. Et elle est substantielle. Mais elle n'est pas psychose. Dieu n'a pas d'âme. C'est très fort, ça. Parce que dès que tu mets une âme, il y a une forme et une limite. Et en Dieu, il n'y a pas de l'âme, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de forme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de beauté en Dieu. Je vous le signale. Le beau n'existe pas en Dieu. Quand quelqu'un est beau, c'est parce qu'il y a une limite. Le blanc.
Je pense que
être
plus impressionné par la vision béatifique.
Ah, une minute, pas si vite que ça. La vision béatifique implique la grâce, la gloire, le Christ. Alors donc, doucement, Kevin. Ouais. Pour l'instant, j'en suis pas là.
Parce que c'est Dieu, c'est l'auteur de toute beauté. Alors, Dieu est pas beau.
Le blanc. N'est beau, ce que je dis toujours, et ça je l'apprends par cœur, le blanc n'est beau dans un lys que parce que le lys est limité par une certaine forme. Alors du coup, le blanc prend sa splendeur à cause des limites de la forme du lys. Mais tu ne verras jamais la beauté dans un blanc qui est omniprésent. Alors le blanc qui est omniprésent, il existe. La beauté vient des limites, toujours. Et il n'y a pas de limite dans l'être premier. Donc il n'y a pas de beauté. Quelqu'un qui dirait qu'il y a de la beauté dans l'être premier, attention, je parle de Dieu. Pourquoi il y a de la beauté dans la vision béatifique? Parce qu'il y a la résurrection du Christ et que le Christ a un corps. Et qu'il est glorifié. Alors là, oui, il y a de la beauté à cause de ça. Mais en tant qu'être, en tant que Dieu, il n'y a pas de beauté, il y a de la bonté. C'est la bonté, c'est l'amour. Il y a l'être, il y a le don, et puis c'est tout.
Et donc,
il y a l'éternité, il y a l'omniprésence, il y a la perfection, il y a
l'art impur, il y a le nous premier. C'est pas l'éternité, c'est pas la beauté, c'est l'éternité.
Et le sentiment de plénitude.
Le sentiment de plénitude, c'est un sentiment.
Une fois qu'on se part, comme disait Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Oui, oui, attention. Je suis en train de vous expliquer que je ne fais pas ici la religion chrétienne. Je fais la religion naturelle, la philosophie. Parce que le sentiment de plénitude de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est parce qu'elle rentre dans la vision béatifique, donc dans le Christ ressuscité. Et donc, à ce moment-là, il y a un aspect sentimental. C'est que notre sentiment est comblé. Le sentiment humain, à nous, est comblé. Mais Dieu n'a pas de sentiment. Parce qu'il n'a pas de vie sentimentale. Parce qu'il n'a pas de passion. Il n'y a pas d'imagination, Dieu. L'imagination implique qu'il y a un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas avoir d'imagination. Impossible. L'imagination est une puissance qui est dépendante substantiellement de l'organisme physiologique. Et il n'y a pas d'organisme physiologique dans le Dieu créateur. Dans le Christ, oui. Mais le Christ, vous voyez, c'est dans l'humanité du Christ. Pas dans la divinité du Christ, mais dans l'humanité. Donc si tu dis Dieu, sentimentalement, parlant est formidable, ça veut dire que tu n'as rien compris ce que c'est que Dieu. C'est pourquoi est-ce que tu n'as rien compris ce que c'est que Dieu? C'est parce que tu n'as jamais fait un jugement d'existence de ta vie, et donc tu peux recommencer à zéro. C'est ce que... Non, je dis si. Je t'affirme, moi, la pensée multiséculaire de la sagesse humaine et de la sagesse de l'Église. De ce côté-là, on est tous les deux d'accord. Pas toi et moi, mais la sagesse multiséculaire de l'humanité et la sagesse de l'Église. Mais c'est pas du tout ton cas à toi, évidemment. Tu sais, longtemps que tu fais des jugements d'existence. Bon, je parle pas de toi, je suis pas là, en général. Bon. Quatrièmement, donc, comprenez bien qu'à partir du mouvement de l'adoration, je peux rejoindre en Dieu son intimité intérieur, sa vie. Et c'est là que je deviens plus parfaitement contemplatif. Et donc, vous voyez, c'est quand ma contemplation, c'est pas pareil de rentrer dans la contemplation de l'être premier et dans l'adoration de l'être premier. L'adoration de l'être premier fait que je touche le point de vue de Dieu qui est en train de me créer. Quand je dis de Dieu, c'est parce qu'on est croyant. Du Créateur, si on n'est pas croyant. Je le touche et je rentre là-dedans. Mon je suis rentre dans le je suis de Dieu. C'est extraordinaire l'acte d'adoration. Mais comme le je suis de Dieu, il est vie, mon je suis à moi n'est pas vie. Mais le je suis de Dieu est vie. Alors du coup, il y a la vie intime de Dieu que je peux contempler. Et c'est pourquoi je contemple premièrement la simplicité. Bon, là, je vais aller un peu plus vite. La simplicité. C'est-à-dire que si vous faites ça souvent, vous allez vous rendre compte que la première chose que vous contemplez dans la vitalité du Créateur, c'est sa simplicité. Vous verrez. Faites-le. Vous verrez. Mettez votre « je suis » dans « je suis » de Dieu et vous verrez que la simplicité omniprésente de Dieu pénètre dans votre intelligence et vous la comprenez. Vous devenez compréhenseur de la simplicité de l'être premier. La simplicité, c'est vital. Hein. Puis de la simplicité, vous passez à la perfection. De la perfection, vous passez à la bonté. Et de la bonté, vous passez à la manière d'exister de Dieu. Il y a une manière d'exister de Dieu qui est pleinement déterminée. Je ne sais pas comment vous dire. L'acte pur. Comment dirais-je? On dit, il est infini. Mais c'est infini, ça ne va pas.
Indéterminé.
Pleinement déterminé.
Non, au lieu d'infini, indéfini. Infini, c'est quantifiable, indéfini, ça remonte.
Oui, c'est pour ça que c'est infini du point de vue de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite dans sa manière d'exister. Il est pleinement déterminé.
Ce n'est pas infini au niveau quantité. Vous avez trois manières de parler de l'infini. Au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, au niveau de la substance. Et ici, c'est une infini du côté de la substance. Mais c'est une substance vitale. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà les quatre aspects. Mais, comme nous sommes chrétiens, je vais compléter ici, je vais barrer là, n'est-ce pas? Ça peut être l'aspect 5, 6 et 7. Je vais mettre contemplation, simplicité. Alors vous voyez, simplicité, perfection, bonté, et puis il existe actuellement, de manière infinie. Une manière voilà, vous contemplez les attributs divins. C'est facile, vous rentrez dans les attributs divins. Il est éternel. Il est éternel, c'est là. Hein? Il est omniprésent, c'est là aussi. Il est stable, c'est là. Etc. Bon. Il est amour, il attire tout à lui, il tient tout dans sa main, sa bonté, etc. Vous contemplez cela, c'est-à-dire que les attributs divins pénètrent dans votre intelligence. Dès que vous contemplez quelque chose, ça pénètre en vous. De sorte qu'il n'y a pas seulement le point de vue de l'être que vous recevez de Dieu, mais par la contemplation, vous participez petit à petit, un peu plus, aux attributs divins. Puis, c'est là que maintenant, votre « je suis », lorsqu'il est dans le « je suis » de Dieu et qu'il atteint le point de vue de la vie, si vous allez jusqu'au bout, là où le « je suis » de Dieu et le « je suis » de l'homme sont un vitalement, c'est dans le Christ. Jésus, il est Dieu et homme. Ça, j'espère que vous le comprenez. Et donc, si vous allez jusqu'au bout, vous vous rendez compte que vous pouvez encore aller plus loin et aller jusqu'au point de vue de l'unité totale, parce que vous restez encore deux personnes différentes, si vous en restez là. Et le contemplatif cherche toujours l'unité. Eh bien, l'unité entre le « je suis » de Dieu et le « je suis » de l'homme, lorsque la vie pénètre là, d'une manière si totale quand on est, eh bien, c'est uniquement le Christ. Et c'est pourquoi le cinquième aspect, c'est le point de vue de la foi. La foi me permet de toucher l'unité substantielle de l'être divin et de l'être humain dans l'unique personne du Verbe de Dieu incarné. Et vous comprenez bien qu'ici, ça ne peut se faire que par une dimension de vie qui vient de Dieu. C'est pour ça que ça implique la grâce. Et là, vous voyez que j'ai abandonné le point de vue philosophique. Je suis rentré dans le point de vue ici du christianisme. C'est pour ça que si vous voulez rester au point de vue philosophique, vous mettez simplicité, 5, perfection, 6, bonté, et puis enfin, cet acte pur. Mais je crois que pour nous, c'est bien de compléter par les trois autres aspects que nous donne la foi. La foi me met en lien avec Dieu en personne. Et il se trouve qu'il y en a trois. C'est pour ça que forcément, je vais avoir 5, 6 et 7. D'abord, le Christ. Et je vois que le Christ est mon créateur. Et il me recrée. Vitalement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avec le Christ, je vois que Dieu peut développer son action créatrice au-delà du point de vue de l'être, jusque dans le point de vue de la vie. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est de la vie. Et c'est reçu dans mon psyché, dans mon art. C'est extraordinaire de comprendre ça. Bon. Alors, voyez bien. Et le sixième aspect, j'espère que vous avez tout de suite deviné quel est le sixième aspect et quel est le septième aspect. Le sixième aspect, c'est que du coup, si vous rentrez de manière plénière dans le Christ, non seulement que vous dépendez de lui, mais vous faites une unité vitale avec lui. Vous voyez que lui, il dépend de qui? Le Verbe dépend du Père. Et donc, vous voyez que, avec lui, vous dépendez du Père. Ça s'appelle le don d'intelligence. Lorsque j'ai une touche contemplative de l'esprit d'intelligence, c'est une touche contemplative. Vous voyez, je regarde ici les structures d'intériorité contemplative. Et du coup, touchant le Père, je pénètre avec Jésus le Verbe incarné. Je rentre avec lui dans cette unité, dans le sein du Père. Et du coup, il y a cette intimité entre le Père et Jésus ressuscité. Et donc, il y a la spiration. Quand je fais oraison, il y a forcément, à un moment donné, la force de faire des actes d'adoration, puis de foi, puis de contemplation, puis de liberté au sein d'esprit, cette saveur d'esprit de sagesse. Et il faut que je m'habitue à rentrer, à m'engloutir dans cette saveur pour qu'elle s'amplifie. Voilà la vie contemplative. Vous voyez bien, c'est ça, la vie contemplative. Et vous voyez que parmi les 7 dons du Saint-Esprit, il n'y a que 2 dons qui sont dans l'ordre contemplatif. Vous voyez, vous avez bien compris ça, puisque le don de piété ne touche pas le point de vue de l'intelligence, mais le don, mais le cœur. Le don de science touche le corps et le point de vue du concupiscible. Le don de force touche les puissances intimes de mon âme qui sont l'irascible, etc. Le don de conseil touche ma raison et mon intelligence pratique, et pas mon intelligence spéculative. Il n'y a que 2 dons du Saint-Esprit qui viennent sanctifier mon intelligence contemplative. Ce sont ces 2-là. Et donc, on a bien 7. Et on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Bon, donc voilà. Mais ce n'est pas pour faire 7. C'est parce que c'est comme ça. Si quelqu'un trouve un 8e, qu'il m'écrive. Je suis très intéressé par cette nouvelle découverte. Bon, donc vous avez ici, ok, est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez ce cheminement? Je voudrais avec vous que nous puissions faire un autre cheminement de vie intérieure naturelle pour que nous comprenions à quel point c'est différent. Nous avons plusieurs voies d'intériorité. Vous voyez que la montée ici est très précise. C'est une montée contemplative. Je vous signale que si vous êtes contemplatif, on ne peut plus rien faire contre vous, au point de vue idéologique. Et jamais vous ne serez infesté par l'idée de quelqu'un d'autre. Jamais. Et ni non plus par vos propres idées. Parce que le premier menteur de la personne, c'est soi-même. Alors, vous êtes incorruptible du point de vue de la vérité. Dieu Christ. Et du coup, la vérité vous rendra libre. Tandis que le monde moderne cherche à mettre l'humanité en esclavage. Et c'est par l'intelligence qu'on la fossilise. Donc ne rentrez ni dans les circuits initiatiques, ni dans les circuits idéologiques. Rentrez dans le point de vue du je suis. Bon, alors voyez-vous, je suis le je suis de Dieu. Je me souviens, je veille. C'est net. C'est net. La grâce me permet de vivre du Saint-Esprit. Donc je veille, c'est il dit les jeunes qui sont l'espérance pour passer l'an 2000, ne seront l'espérance de l'an 2000 que s'ils disent « Je suis, le je suis de Dieu », que s'ils rentrent dans la parole de Dieu pour rentrer dans la parole de Dieu, le Verbe, le Christ, parole du Père, et alors du coup je veille, ils peuvent vivre de l'espérance. Et vous voyez tout de suite que si vous n'êtes pas oraison, bon,
Alors, donc maintenant, deuxième voie d'intériorité. Il faut que nous soyons lucides sur ces voies d'intériorité. C'est à cause de ça que nous sommes ici, pour essayer d'apprendre à être lucide.
Et ne pas confondre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus mauvaise que l'autre. Elle n'a rien à voir, tout est bon. Mais il ne faut pas confondre. Ce qui est mauvais, c'est de faire des confusions. De faire des nœuds. Hein? Tous ceux qui ont fait la pêche ont essayé de faire des nœuds avec... pas commode. Bon, alors, votre filet, ou avec votre canne à pêche, vous allez voir. Ce ne sera pas du tout reposant. Si beaucoup de nœuds votre canne à pêche, vous allez rentrer à la maison énervé. Bon, alors, voyons donc, maintenant... Hein? C'est pour ça que je n'ai jamais été à la pêche.
La quatrième voie, c'était quoi de préférer?
Pardon?
La quatrième, c'était quoi? Il y avait l'adoration.
L'adoration, la contemplation des attributs divins. Contemple l'intimité du Dieu unique.
Vous n'êtes pas trop largué, ça va. Attention.
Maintenant, nous allons rentrer dans la voie.
Dans la voie. Pas la voie bouddhiste. Parce que. Je voudrais dire, dans la voie de l'intériorité lumineuse de l'âme. Vous pouvez rentrer et avoir une vie intérieure pour atteindre en vous, par votre vie intérieure, la lumière. Et par ce moyen-là, devenir un être de lumière. Quelqu'un qui a beaucoup de qualités intérieures, c'est quelqu'un qui resplendit. Il rayonne. Mais, ce que vous avez plus ou moins dans le tableau qui est ici, le point de vue de la vie, quatrième colonne, c'est cette voie d'intériorité. Eh bien, cette vie. Vous voyez, si vous regardez dans la deuxième case, à gauche, la ligne d'en dessous, cette note symbolique, ou qualité finale. Et vous lisez en croisant que si vous rentrez dans cette voie d'intériorité-là, vous devenez lumineux. C'est vrai, il y a des gens qui rayonnent. Mais les gens qui rayonnent, c'est souvent parce que c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils ont une vie intérieure. C'est un rayonnement, ils ne forcent pas, vous savez. Parce que si vous forcez, ce n'est pas du rayonnement, ce n'est pas de la lumière. Vous fabriquez des énergies. C'est pas pareil. On regardera ce que c'est, ça. C'est le contraire de l'intériorité quand vous fabriquez de la lumière, comme ça. C'est le contraire. C'est par un processus vital d'intériorité, mais inversé. C'est extraordinaire, ça. Il faut comprendre ça. Si vous comprenez ce que c'est que la voie d'intériorité, vous comprenez ce que c'est que le New Age, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on doit respecter cette montée. Mais si je fais cette montée dans un temps un peu dans un sens un petit peu différent, je produis des énergies. Et je peux produire des auras, je peux produire tout ce que vous voulez, quoi. Tu restes tous les trucs médiumniques et compagnie. Ce sont tous des homicides de la vie intérieure. Ah, donc c'est très important. Bon, alors donc, essayons de voir. Vous voyez, le point de vue donc, de la vie contemplative, c'est la troisième colonne, l'esprit. Comme personne, du coup, vous devenez, votre personne rayonne de simplicité. Vous voyez, si vous rentrez dans cette première voie de contemplative, vous finissez par rayonner. C'est pas un rayonnement, du reste. Et vous finissez par jouir d'une simplicité merveilleuse. Et les autres qui sont à côté de vous peuvent jouir de votre simplicité. Vous voyez ? C'est vrai. Vous devenez virginal, comme c'est simple, quelqu'un qui est... Bon. Alors, la luminosité. Donc, vous voyez, le point de vue de la vie intérieure. Ah. Alors, ça va être plus difficile. J'ai bien peur que ce soit si difficile à faire. Ah, oh, il me reste 20 minutes, c'est ça? Il me reste combien de temps?
Ah, je ne vais pas avoir le temps, je suis désolé. Hein. Eh oui. Eh oui. Mais oui. Non, mais vous pouvez revenir. Oui, on va petit à petit, vous inquiétez pas. Bon. C'est, on travaille avec le temps. Le temps travaille pour nous, en tout cas. Bon, bon, c'est pas comme certains. Bon. Bon, il y a certains autres qui sont uniquement dans le même de vie. Alors le temps ne travaille pas pour eux, parce que la vie, ça se pourrit. Ça n'évolue pas vers le meilleur, comme dit l'évolutionnisme. Ça pourrit toujours. La vie, ça se corrompt tout le temps. On a toujours vu ça. On n'a jamais vu la vie qui s'améliore, jamais. Quiconque a fait le travail de la ferme a constaté que dès qu'il y a de la vie, ça se corrompt. Il n'y a que les idéologues qui disent que la vie, ça se fait, ça se progresser. Bon, enfin, c'est un autre problème. Non, je dis, il y a des gens qui sont givrés, c'est tout. Bon, alors, c'est pas grave. Il faut avoir beaucoup de compassion pour eux. Hein. Faut pas leur dire s'ils ne sont pas capables de le recevoir. Bon, alors, ne balancez pas ça à Brigitte Bardot, par exemple. Elle ne peut pas l'entendre. Bon, alors, la vitalité intérieure de l'âme. La première chose que vous faites pour rentrer dans la vie intérieure, c'est très simple. C'est facile. C'est vous faites exactement ces équivalents du jugement d'existence. Vous passez, vous fermez les yeux. Vous essayez de clore, j'allais dire, l'activité des puissances, des puissances de sensibilité externe. L'ouïe, la vue, le sens du toucher. Et vous rentrez intérieurement vous-même, de manière à atteindre l'âme. C'est pour ça que dans la première colonne, vous avez disponibilité, ordination au mouvement. Vous vous apercevez... Quand vous rentrez dans cette vie intérieure, qu'il y a comme une disponibilité fondamentale. C'est facile, vous le voyez bien. Intérieur. Une disponibilité, une aptitude au mouvement. Il y a de la vitalité. Vous le voyez bien. C'est là où vous touchez ce point de vue que l'âme, la vie qui est en vous, est fondamentalement entre vous. Et vous pouvez orienter le mouvement de votre vie dans toutes les directions. Et d'ailleurs, ça va effectivement dans toutes les directions. Parce que vous regardez, ça gargouille là-dedans, la digestion, le sang qui circule, les métabolismes, les divisions microcellulaires, le sida qui se répand, etc. Extraordinaire. Vous avez plein d'autres trucs. Vous avez des pensées, des angoisses, des sentiments, vous avez des aspirations, des nostalgies. Vous avez des pulsions. Vitalité d'amour, vous êtes hâte. Et vous savez, vous pouvez aussi avoir la grâce, donc la vie divine en vous. C'est pas tout le monde ça. Vous pouvez avoir la grâce. Oui, parce que vous êtes confessé pour avoir la grâce. Renouveler quelqu'un qui ne se confesse pas, il n'aura jamais l'expérience de la vie contemplative. Il ne décollera pas du quatrième point de vue. Jamais. C'est très ennuyeux. Ce sera une espèce de cyclope. De la vie contemplative. Pas seulement de la vie contemplative. Alors donc, vous avez ici le point de vue de la vitalité. Le premier aspect, c'est de prendre conscience qu'il y a une disponibilité vitale et une aptitude au mouvement. Ouais. C'est extraordinaire de comprendre ça. Bon. Le deuxième... Alors, voilà. Alors, du coup, le deuxième aspect... Il y a marqué poiesis. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. Et donc, vous voyez qu'ici, alors on pourrait mettre ici l'âme. Vous pouvez saisir votre âme. Vous pouvez saisir de mieux en mieux votre âme. Donc ici, évidemment, ça va très loin, hein, cet aspect-là. Hein. Ça peut aller très très loin. Bon,
on va le regarder. Donc, est-ce que vous voyez, déjà, vous voyez cette espèce de vitalité intérieure, et puis en même temps, cette liberté. C'est entre vos mains, vous êtes disponible. Maintenant, vous pouvez l'orienter où vous voulez. Vous sentez que votre âme est entre vos mains. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Au niveau de l'être, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous existez, puis c'est tout. Essayez de supprimer l'être. Essayez, vous verrez. Vous n'y arriverez pas. Mais vous pouvez faire quelque chose avec la vie. Et c'est évident qu'on peut supprimer la vie. Et tu peux la diviser, tu peux l'abîmer, tu peux la diminuer.
Non, on ne peut pas la supprimer.
Non.
Non, elle est dans une même réalité.
Non, puisque la vie ne cesse d'exister.
Voilà.
Mais en tant que telle, elle est suppressible, elle est corruptible. Mais elle ne subsiste que parce qu'il y a le point de vue de l'être pour toi. C'est pour ça que tu peux quand même supprimer la vie, par exemple, pour un chien. Un chien n'ayant pas en lui-même le point de vue du « je suis », eh bien, si tu supprimes la vie du chien, sa vie est supprimée. Son âme est supprimée.
C'est pas parce que je me suicide que je supprimerai ma vie.
Non, mais pas la tienne. Mais regarde bien, la vie en elle-même, tu peux la supprimer. La preuve, c'est que quand la vie est totalement séparée du point de vue de l'être, tu peux la supprimer. Regarde le chien.
Oui.
Tous les chasseurs le savent.
Oui, mais si on tuait tout, par exemple, tous les animaux, tout le monde animal, là, on supprimerait du coup la vie de...
Je crois que tu ne peux pas faire ça.
Je ne sais pas.
Non.
En tout cas, chez nous, on ne peut pas le faire.
Dans notre univers, tu ne pourras jamais faire ça. Jamais.
Alors, on ne peut pas supprimer notre vie.
Même l'ensemble de la vie animale, tu ne pourras jamais faire.
Ouais.
Parce que si tu supprimes l'ensemble de la vie animale, tu supprimeras forcément la vie humaine, puisque dans notre vie, il y a une vie animale.
Je crois que c'est plus important de s'occuper de nous. La vache, on verra après.
Je ne te le fais pas. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Eh bien, voyez. Ma vie, je ne vis pas tout seul. Je suis dans un certain milieu. Je suis dans un certain conditionnement. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en lisant l'enfant loup, vous voyez, le petit enfant qui a 4 ans, le petit enfant qui a 8 ans, qui a été élevé par les loups, n'est-ce pas? Ben, vous voyez bien que la vie, vous orientez votre vie, et votre vie fait qu'elle s'adapte. Elle s'adapte fondamentalement, et premièrement, vous regardez à quel point vous adaptez par rapport à votre milieu, l'adaptation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est marqué ici. L'adaptation, c'est le premier aspect, c'est de regarder comment votre vie dépend de tout ce qui est vital dans l'univers, tout ce qui est vivant dans l'univers, tout ce qui est vivant autour de vous. Tout ce qui est vivant et dont vous dépendez en partie. Et du coup, il y a une relation vitale entre votre vie et ce milieu ambiant. Et c'est pour ça qu'il y a cette aspiration à faire quelque chose. Allez, nous sommes vitalement, intérieurement, je ne sais pas comment vous dire, liés à tout ce qui est vivant. Alors, c'est du reste ce qui fait le reflet de votre vie intérieure, de votre vie tout court. Votre vie se reflète dans le milieu ambiant. Et c'est ce qui permet à votre vie d'atteindre à l'intérieur de votre vie, non seulement le fait que vous avez la vie, mais le fait que vous atteigniez une certaine splendeur. Quelqu'un qui a une intériorité totalement séparée, l'autiste, ne rentre dans le point de vue de la vie, mais il décolle pas ici. Il ne peut pas rentrer dans la splendeur. Il faut atteindre ce rayonnement vital qui est en vous, et le rayonnement vital de tout ce qui est autour de vous, pour rentrer dans la splendeur. Vous vous adaptez. C'est la première aspect de votre travail intérieur. Il faut savoir s'adapter.
Nous sommes le miroir de la vie. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est l'ascension bouddhiste. Mais c'est aussi l'ascension de la philosophie de la psyché, la philosophie de l'âme. C'est de la santé naturelle de faire comme ça. Vous voyez ? Alors, il y a aussi une erreur, je vois, disposition à l'aspiration. Non, disposition à l'inspiration. Et comme vous voulez que cette splendeur progresse, il y a en vous, entre la beauté de ce qui vit autour de vous et la beauté de votre vie intérieure, il y a comme un croisement entre les deux, et ça fait naître en vous une inspiration qui oriente votre vie de manière à embellir. C'est ça le point de vue fondamental de l'artiste qui va se développer dans la troisième intériorité qu'on avait vue la fois précédente et qu'on pourra re-regarder une autre fois. Le troisième aspect, c'est l'exercice de sagesse. C'est la voie à partir de l'aspect supérieur de mon âme, de ma vie. Je m'aperçois que l'aspect tout à fait supérieur, la splendeur la plus grande, celle par quoi je suis en relation la plus parfaite avec mon monde environnant vital, c'est pas le point de vue de la vie, c'est pas le point de vue spirituel, c'est le point de vue donc de l'intelligence contemplative. Comment l'intelligence contemplative va me permettre de passer ici? Donc ici, l'adaptation. Bon. À chaque fois, ce sont des qualités fondamentales, tout ça. Quelqu'un qui est qualitatif, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Quelqu'un qui n'a aucune intériorité est incapable de s'adapter. Donc comment passer de l'adaptation à l'exercice de sagesse? C'est quand je vais m'adapter à ce qu'il y a de plus vital dans la vie de l'univers, ce qu'il y a de plus vital dans la vie de l'univers, comme je viens de vous l'expliquer précédemment, c'est le point de vue de l'être premier, qui par sa présence d'immensité, apporte un point de vue vital, substantiel. Et donc, je vais intérioriser, et là, voyez ici, c'est mon intelligence vitale va me permettre de dépasser une intériorité géniale. Souvent, la plupart des gens s'arrêtent ici, hein, ce que vous voyez aujourd'hui, puisque bien sûr, l'intelligence n'apparaît qu'à partir du moment où j'ai fait un jugement d'existence. Donc, la plupart des temps, du temps, la vie intérieure des gens s'arrête ici. Tous ceux que vous voyez autour de vous. La plupart du temps. Ici, je rentre dans la sagesse à partir du moment où je vois que j'ai une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle commence à partir du moment où je peux voir que mon âme existe. Ha ha, c'est très fort ça. C'est ce qu'on appelle l'induction de l'âme. Il faut apprendre à faire l'induction de l'âme. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'induction de l'âme, c'est terrible. Si vous faites l'induction de l'âme, vous ne pourrez plus jamais tomber dans les gnoséologies initiatiques modernes de la nouvelle spiritualité. Toutes les gnoses. Impossible. Vous verrez clairement que c'est une invention. Comment est-ce qu'on fait l'induction de l'âme? Ça, j'ai besoin d'être intelligent pour faire l'induction de l'âme. Vous comprenez bien, ça demande de l'intelligence. J'ai pas besoin d'aller à l'université. Attention, pas besoin d'aller à l'université. Il suffit d'écouter un type qui sort de sa caverne pour aller vous parler. Je sors de ma grotte. Et j'ai jamais été à l'université. C'est vrai, je crois que j'ai été en France. Mais... C'était à l'université de théologie, mais à Fribourg. Sinon, je n'ai jamais été à l'université. Non. Bon. Alors donc, je sors de ma grotte. Je dis, comme Plotin, je dis, il faut faire l'induction de l'âme. Comment est-ce qu'on fait l'induction de l'âme? C'est très important de faire l'induction de l'âme. Vous devez faire l'induction de l'âme tous les jours, si c'est possible. Bon. Mais faites surtout la première voie d'intériorité. Hein. Ça, c'est le capital. La première. La seconde, mais vous voyez ici, on essaie de regarder l'induction de l'âme à partir de cette vie. Et puis, ma datation, je m'aperçois quand même, face à tout ce qui est autour de moi, qui est vivant, et puis j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que la vie soit quand même plus belle. Vous voyez, j'essaie face à l'autre, face à ce miroir, je m'aperçois que ma vie est une. Il y a une unité vitale. Et puis en même temps, il y a un foisonnement, une complexité. Qu'est-ce que c'est quoi? Une complexité, une pleure. Mon Dieu, mais il y a des pensées, ça se bouscule là-dedans. Ça. Il y a la chaleur physique, passionnelle, instinctive. Vous avez le point de vue spirituel, le point de vue émotionnel, le point de vue psychologique, le point de vue... Incroyable, tous ces mouvements, ça grouille, une complexité invraisemblable dans ta vie intérieure. Si t'es arrivé, il va clair, tant mieux.
Conglomérat.
Un espèce de conglomérat de tétans. Un conglomérat de tétans. Hein? Tout à fait. Et oui, parce que, vous comprenez. Oui, parce que vous comprenez bien que l'homme, c'est un être spirituel. C'est une âme spirituelle. Et quand l'âme spirituelle est incarnée, c'est-à-dire habite dans un corps vivant, ça opère, on constate que ça opère un espèce d'éclatement spirituel. Le spirituel dans un corps vivant, c'est ce phénomène d'éclatement. Et la vie intérieure consiste justement à être un être intérieur et du coup qualitatif. Quelqu'un qui est intérieur, il a des qualités intérieures. Et la qualité, c'est justement ce qui refait l'unité de cet éclatement du spirituel dans notre vie intérieure. Et donc, vous avez une troisième grande qualité, c'est l'exercice. Et vous ne pouvez rentrer dans l'exercice de sagesse qu'à partir du moment où vous avez saisi, à partir de la complexité, et puis en même temps de l'unité de votre âme, qu'il y a forcément quelque chose qui explique cette vie si complexe, si éclatée, et en même temps cette unité. Votre âme est en même temps une, et en même temps elle est plusieurs. Elle est beaucoup, elle est complexe. Et quand il y a complexité et en même temps unité, et que c'est la même chose, il faut bien que ce soit expliqué par quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir dans une seule réalité deux touchés sans qu'il y ait une seule source. Et cette source, c'est ce qu'on appelle l'âme. Là, j'ai fait l'induction de l'âme. Vous ne toucherez jamais votre âme par la vie intérieure. Vous avez besoin de votre intelligence pour faire l'induction. Vous voyez que nécessairement, il y a une source de l'unité et de la complexité qui est en vous. Et cette source, vous la touchez par l'induction. J'ai nécessairement une source intérieure. C'est une source de lumière vivante. Et cette lumière vivante, comme je l'ai atteint, je vois que je l'ai atteint par l'intelligence, donc d'une manière spirituelle, et par conséquent, je vois qu'elle subsiste. Et donc, je retrouve ici le point de vue de la sagesse. La sagesse, ici, je commence à rentrer, ici, dans le point de vue contemplatif. Vous voyez, la deuxième manière de retrouver la contemplation dans le point de vue de l'intériorité. Le troisième, donc l'exercice de sagesse. Et à partir du moment où vous touchez, vous voyez, le point de vue donc du fait que vous existez par le point de vue vital de l'induction, vous voyez que votre âme existe et donc qu'elle dépend aussi du Créateur. pas parce que c'est une âme, mais parce que cette âme existe. Et donc, vous touchez la fin. Et la sagesse consiste à toucher intérieurement la fin. C'est ça la sagesse. Et donc, de pouvoir tout revoir à partir de l'aspect final qui est en soi.
L'induction,
c'est l'induction est la porte d'entrée dans l'existence. Il faut, bien sûr, qu'il y ait le point de vue du jugement d'existence et puis précédent qui était là. D'accord ?
Non, mais le mot induction.
Ah, l'induction, c'est une opération de l'intelligence qui est capable de toucher une réalité que tu ne peux pas toucher de manière sensible. Tu touches d'une manière sensible que tu vis, tu as des impressions. Tu éprouves des choses. Mais tu ne pourras jamais sentir un principe, cette source de lumière vivante qui est ton âme. Tu pourras en voir les effets. Il y a deux effets, c'est l'unité vitale qui est en toi et la complexité des opérations vitales qui sont en toi. Voilà, tout ça, tu peux toucher les effets et les sentir. Mais cette source, la réalité qui explique les deux, tu ne pourras jamais la sentir. Tu pourras la toucher par ton intelligence, c'est une induction. Et si tu l'induis, tu aperçois immédiatement que cette âme est substantielle, qu'elle existe. Bon, le quatrième aspect, c'est quand vous rentrez, c'est la vie au carré, n'est-ce pas? Alors, c'est que, évidemment, à partir du moment où tu as touché le point de vue de l'âme, et que tu es dans cette lumière, tu as touché le point de vue de la lumière, alors à ce moment-là, tu vas aller plus loin, et tu vas féconder cette âme pour qu'elle soit encore plus vivante, qu'elle soit encore plus lumineuse. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui a marqué au fait ? Santé, lumière, intellect actif. Oui, évidemment, il faut être dans une santé intérieure et physique de plus en plus grande. Il faut être de plus en plus vivant, donc de plus en plus lumineux, et aussi, enfin, de plus en plus intelligent. Et donc, raisonner de moins en moins et contempler de plus en plus. C'est pour ça que c'est l'intellect actif qui est là. Et du coup, si votre vie intérieure touche cette source lumineuse qui est en vous, et que vous vous habituez à rentrer dans cette source lumineuse qui est en vous, et qui explique votre unité et votre complexité, vous verrez qu'il y aura une harmonie intérieure qui apparaîtra de plus en plus. Vous verrez de plus en plus, ça dégagera beaucoup de terrain pour refaire un jugement d'existence d'une manière beaucoup plus lucide, rentrer dans cette vie contemplative, et donc, vous voyez, vous deviendrez de plus en plus intelligent. Votre intelligence pourra rentrer précisément dans une contemplation suprême. Voyez, vitalité de l'intelligence. L'intellect actif. Vous voyez que cette lumière vous permet, vivante qui est en vous, est en relation avec tout ce qui est suprêmement vivant autour de vous. Oui, vous voyez bien que dans la voie d'intériorité, dès que j'ai atteint mon âme, vous voyez qu'il y a comme une espèce de similitude avec l'âme, c'est-à-dire cette source de lumière qui fait l'unité de celui qui est à côté de moi. Et donc, il y a une relation possible de par là avec ceux qui sont à côté de moi. Et donc, là, vous voyez, je peux devenir contemplatif par l'âme, rejoindre une autre lumière vivante qui essaye elle-même de s'adapter à ce monde autant qu'elle peut. Vous voyez, alors vous avez ici ça. Alors, du coup, nous rentrons, c'est à cause de ça que nous rentrons dans la cinquième grande qualité intérieure, on appelle ça la phronésis. La phronésis, c'est la qualité de prudence, qui est la plus grande qualité naturelle d'un être humain. La plus grande. Et la prudence consiste fondamentalement intérieurement à saisir
le moyen, la porte qui me met en harmonie la plus douce, la plus pacifique, la plus suprême avec tous les autres êtres vivants. Quelqu'un qui n'est pas prudent, il est rude, il est gros, c'est l'ours. Eh, malheur! Donc la phronésie, la prudence, comme une lumière capable d'atteindre les autres êtres vivants qui sont autour de moi. Alors du coup, je peux faire, sixième aspect, l'unité. Je vois l'unité radicale et je vois que la lumière est ce qui fait l'unité. D'une manière vitale et intérieure de tout ce qui existe. Et c'est pour ça, on appelle ça dans le bouddhisme, vous savez, le petit véhicule et le grand véhicule, pranayama. C'est un peu idiot d'appeler ça le grand véhicule. Parce que du coup, j'utilise un schéma. C'est ça que j'aime pas, moi. Ça peut rien, on va pas discuter. Bon. Donc l'unité, ce qui qualifie de manière ultime la potentialité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites? Bon, et enfin la dernière, c'est là, à partir du moment où vous avez trouvé que c'est la lumière qui actue votre diaphane intérieur et en même temps qui actue le diaphane de tout l'univers. Voyez ? Alors à ce moment-là, si vous voyez ce point de jonction, à quel point vous êtes vitalement relié et responsable vitalement de tout ce qui est vivant dans l'univers et autour de vous, il y a un lien vital et réel. Alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à rentrer dans l'intériorité et dans votre finalité suprême au point de vue de la vie intérieure. Et la finalité suprême de votre vie intérieure, c'est d'être capable d'aimer d'un amour d'amitié quelqu'un, un autre être vivant que vous, et c'est d'être capable, voyez, d'avoir la Sophia, c'est-à-dire d'avoir la sagesse par rapport à l'autre vivant parfait qui est Dieu. Mais vous voyez bien que ici, d'aimer un autre être humain, l'amour d'amitié, d'aimer Dieu intérieurement dans son intériorité, sont deux finalités qui sont distinctes complètement. Voyez bien. Mais en tout cas, d'avoir la philia, c'est d'être capable intérieurement de me joindre, d'innerver, d'enrichir en me donnant vitalement la vie d'un autre. Mais vous voyez que c'est une voie d'amour qui est très différente de la voie d'amour par le point de vue de la contemplation, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, est-ce que vous voyez la différence? Vous ne pouvez pas aimer d'un amour d'amitié, vous comprenez tout de suite que vous ne pouvez pas aimer d'un amour d'amitié si vous ne passez pas par cette grande montée. Vous allez me dire, mais pécheur, voilà, qu'est-ce que c'est compliqué, ce que... Si vous ne pouvez pas aimer d'un amour d'amitié, l'amitié implique que cet amour a crevé un certain nombre de plafonds du point de vue de la profondeur. Et nous ferons un séjour, nous rentrerons un séjour dans le point de vue donc, des différents degrés de profondeur de l'amour d'amitié. Les 33 degrés, hein. On va le refaire. Il faudra le refaire et en détail, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été très bien compris. Donc on le refera et en détail. Mais l'amour d'amitié consiste à atteindre au moins le 22e degré. Et si la Sophia y est en plus, ah, je peux atteindre le 24e degré.
Mais vous voyez que ici, cette qualité, c'est une qualité du vivant. Et donc l'intériorité de l'homme n'atteint son sommet dans sa plénitude qu'à travers l'amour d'un autre que nous, et à travers l'amour et la saveur du vivant parfait qui est Dieu. Ceci, c'est de la philosophie. Donc vous voyez que nous ne sommes pas rentrés dans le point de vue de la vie chrétienne. Et si je faisais comme tout à l'heure, c'est-à-dire si je ramenais cette vitalité de l'intelligence à 1, la phronésie, l'unité et l'amour, ce qui serait normal, je le mettrais là, je peux refaire pareil en disant ici, point de vue de la grâce. C'est que cette vitalité de la sophia, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain ensemble, s'épanouit d'une manière prodigieuse uniquement dans le Christ. C'est pour ça que c'est la grâce. Alors je vais remplacer ici la grâce. La grâce, c'est la vie divine dans le Christ. Et le Christ me permet de rentrer dans la vie du Saint-Esprit. Et la vie du Saint-Esprit, hein, la vie du Saint-Esprit, là, je vais pomper. Vous voyez, la vie du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui consiste, c'est notre Seigneur. Ouais, évidemment. La vie du Saint-Esprit, la vie divine, c'est l'intelligence spéculative et le cœur et l'amour. Hein. Donc ce sera là le don de sagesse. Alors d'abord, le don de conseil. Ici, bon, il faudra que je vous explique ce qu'est le don de conseil, et en septièmement, le don de sagesse. Donc, voyez, ces deux voies d'intériorité aboutissent au même terme que la voie contemplative et la voie d'intériorité, mais vous voyez tout de suite que la voie d'intériorité dans l'ordre de l'âme et de la vie ne peut s'épanouir et aller jusqu'au bout que s'il y a la première voie d'intériorité, puisqu'elle intervient ici. Mais je dois être lucide quand je vis dans mon ascension spirituelle personnelle, je dois être lucide si c'est par le point de vue de l'adoration que je suis rentré ou par le point de vue de l'âme, le point de vue de la lumière. Dans un côté, je suis passé par le point de vue de l'être et de la création, de la créateur de Dieu, et dans l'autre, je suis rentré par le point de vue de la lumière. Voilà les deux métaxus différents. Ça va? Or, ces deux métaxus ne s'opposent pas, ils se complètent. Et c'est à nous de voir si nous sommes trop dans une ou dans l'autre voie pour compléter. Je tiens à vous dire que nous sommes tous plutôt dans cette deuxième voie aujourd'hui. Donc, si vous voulez compléter, rétablir une certaine harmonie, un certain équilibre, alors à ce moment-là, revenez à la voie contemplative, c'est ce que je vous dis depuis 3 ans, ce que vous avez fait de manière héroïque, sans vous arrêter, et nous continuerons jusqu'à la mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Eh bien, nous allons avoir le chapelet dans 5 minutes.